Bonjour à tous, merci beaucoup Julie Guinon d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. Alors déjà on aimerait commencer par vous dire qu'on est désolé pour les conditions quelque peu particulières et les masques, on espère que tout va bien se passer. Et donc merci déjà aussi à notre professeur de français qui nous a donné l'opportunité de vous recevoir aujourd'hui et qui va nous permettre de mieux vous connaître, ainsi que votre livre que nous avons lu dans le cadre du roman des romans, donc le livre Survivante. Donc nous sommes une classe de 3e année du collège, au collège Claparède, participant au concours du roman des romans. Donc grâce à vous, nous allons pouvoir, donc, comme je l'ai dit, mieux étudier votre livre et pouvoir comprendre aussi le sens et votre vie, peut-être qui a influencé votre livre. Donc le roman des romans a été créé en 2009 par une professeure de français, Madame Althaus Humerose, et le prix du vainqueur est de 15 000 francs suisses, en plus de la reconnaissance et de la visibilité conférée. Donc c'est un prix quand même assez prestigieux, et donc je pense que vous participez donc aussi à ce concours, et ça nous fait plaisir aussi de nous participer à ce concours en tant qu'élève. Donc voilà, nous avons beaucoup apprécié lire votre livre, et c'est pour cela que nous allons vous poser quelques questions au cours de cette interview. Maintenant, je vais laisser parler ma collègue Joséphine, qui va plus présenter votre vie, et nous allons en discuter plus en profondeur juste après.
Ben merci beaucoup, et merci d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment particulier et très chouette de pouvoir faire en première mondiale une émission.
Avec plaisir.
Alors, Julie Guinan, vous êtes née à La Chaux-de-Fonds en 1989 et aujourd'hui vous vivez à Lausanne. Vous avez été étudiante en littérature et histoire de l'art à l'université de Neuchâtel. Quels souvenirs gardez-vous de vos études ?
Des vraiment très bons souvenirs. Donc, j'ai fait des études de littérature et histoire de l'art et puis je l'ai vraiment fait par intérêt et par passion. Sans forcément prévoir ce que j'allais faire après l'université, la grande question, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? J'y avais pas vraiment répondu, mais j'étais passionnée par la littérature, par l'histoire de l'art. Et puis, les 5 années que j'ai passées à l'université, c'est des super souvenirs. À la fois parce que c'était très riche, puis aussi c'était un cadre assez chouette au bord du lac de Neuchâtel, avec possibilité d'aller se baigner en été ou de se promener, donc vraiment plutôt que des bons souvenirs.
Vous avez aussi gagné une bourse pour la création littéraire de la ville de Lausanne. Elle était de 10 000 francs. Qu'est-ce que cette bourse a pu vous apporter dans votre carrière ?
C'est chaque fois vraiment des belles reconnaissances, parce que quand on débute en tant qu'auteur, c'est difficile de savoir aussi si nos livres vont être appréciés, si ça va marcher. Il y a aussi l'aspect financier, en fait, que c'est pas possible de vivre de la vente de ces livres en Suisse. Donc les bourses qui sont données par les villes ou par les cantons, ou bien les prix comme le roman des romans, c'est en fait une manière de pouvoir gagner un peu sa vie en écrivant. Donc c'est à la fois une magnifique reconnaissance sur le plan professionnel, et puis ça permet aussi de dégager du temps pour pouvoir plus écrire, en fait.
En parallèle avec vos études, vous avez intégré l'Orchestre symphonique et universitaire de Lausanne en tant que violoniste. Quelle est la place de la musique dans votre vie, et jouez-vous toujours d'un instrument ?
Alors, la musique occupe, oui, une grande place dans ma vie. J'ai un papa qui est musicien professionnel, qui est guitariste et violoncelliste. Et tous mes frères et sœurs et moi ont fait de la musique, donc c'est quelque chose qui faisait partie de la vie familiale. On jouait à Noël, on jouait pour les anniversaires, on faisait des duos, des trios, des quatuors des fois. Et puis j'ai continué de le faire à la fin de mes études, donc en intégrant plutôt des orchestres. C'était aussi un beau moyen de continuer de jouer avec d'autres gens, ce qui est plus stimulant des fois que de jouer seul. Maintenant je fais plus partie de cet orchestre, mais je continue de jouer un peu pour moi, et puis de temps en temps avec ma sœur on fait des duos violon-violoncelle, ce qui est aussi un bon moyen de se voir et puis de prendre du temps ensemble.
Et du coup, nous supposons que vous exercez un deuxième métier. J'ai entendu dire que vous étiez, ou que vous êtes toujours, auxiliaire dans une crèche. Est-ce toujours le cas ?
Oui, alors c'est tout à fait le cas. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure de la difficulté à vivre de l'écriture, en fait. En Suisse, à part si vraiment on vend un best-seller qui se vend à des milliers d'exemplaires, l'écriture ne permet pas, en fait, de vivre. Donc pour ça, mais aussi parce que j'avais envie de voir un peu quelque chose de plus concret aussi, d'un peu différent de l'écriture. J'ai un peu découvert par hasard le milieu de la crèche, qui n'est pas du tout le milieu de mes études, mais que j'ai eu l'occasion une fois de faire un remplacement dans une crèche. Je me suis tout de suite sentie hyper bien, c'était très naturel avec les enfants. Et puis finalement, depuis là, j'ai continué de trouver des places. Et puis je trouve que c'est vraiment un bon complément à l'écriture, en fait, parce que c'est avec des gens, alors que l'écriture en général c'est plutôt un travail un peu solitaire. Il y a quelque chose de très concret, en fait, on est obligé d'être dans le présent avec les enfants. Ça permet de couper aussi des fois un peu le flux de réflexion, parce que quand je suis dans l'écriture, c'est des fois un peu les pensées qui tournent en boucle, en fait. Ça occupe toute la place et puis c'est difficile de couper ça. Donc des fois, être avec les enfants où on est obligé de s'occuper d'eux, parce que sinon ils sont pas très très autonomes à 3-4 ans, c'est chouette, en fait. Ça m'apporte un équilibre qui est agréable.
Vous avez gagné aussi de nombreux prix. Vous avez été deux fois lauréate du prix interrégional Jeunes Auteurs PIJA en 2007 et 2008, donc respectivement à 18 et 19 ans, ce qui est presque notre âge. Comment vos camarades vous percevaient-ils après ?
Ils étaient plutôt contents pour moi, en fait. Mes amis savaient que j'écrivais, savaient que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et puis, en fait, finalement, ces prix, c'était... ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres gens, mais ça n'a pas vraiment changé la vision que ma famille ou mes amis avaient de moi, en fait.
Vous en étiez fière de ces prix et d'avoir...
Super fière, ouais.
C'est une belle reconnaissance, je pense.
Vraiment, et puis je trouve... c'était aussi... Je me posais la question si... depuis vraiment longtemps, j'écrivais, et puis je me disais que... Écrire, c'était chouette, mais que ça pouvait pas être un métier, en fait, que ce serait un hobby, parce qu'on peut pas gagner sa vie avec ça, et puis que c'est un métier difficile. Et puis de voir qu'il y avait une reconnaissance aussi de gens dont c'était le métier, en fait, qui avaient lu ces textes, et puis qui avaient trouvé que ça avait une certaine valeur, ça m'a poussé, en fait, à continuer. Sinon, peut-être je l'aurais moins fait, ou je l'aurais fait un peu plus pour moi.
Pour que nos chers auditeurs puissent avoir une idée de quelques œuvres que vous avez pu écrire et qu'ils puissent les lire après, je vais citer quelques œuvres que vous avez faites publier. Alors, dans les ouvrages collectifs, il y a Reportage climatique aux éditions D'autre part en 2015, Carnet ferroviaire aux éditions Zoé en 2017, et pour les œuvres, on va dire solo, il y a Dérives asiatiques aux éditions D'autre part en 2016, Hors la loi aux éditions Paulette éditrice en 2018 et Survivante, dont nous allons parler tout à l'heure, aux éditions D'autre part en décembre 2019. C'est un très beau palmarès et il y a beaucoup de livres que vous avez écrits. Lequel est pour vous le meilleur d'entre tous et pourquoi ?
Question très difficile. Je suis vraiment contente de ces trois livres, en fait. Il n'y en a aucun que je relis maintenant, puis je me dis, waouh, oh là là, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai pour chaque livre quand même une amitié un peu littéraire, comme ça. Après, j'ai l'impression aussi que mon écriture, elle évolue, que mes sujets d'intérêt, ils évoluent aussi. Et puis, je dirais peut-être Survivante, que j'ai écrit le plus récemment, c'est celui... que je trouve le plus abouti, en fait, dans un sens, parce que j'ai l'impression que c'est un travail comme n'importe quel travail où plus on l'exerce, plus on a une certaine maîtrise. Donc c'est peut-être celui-là que je mettrais plus en avant aujourd'hui.
Ok. Survivante commence à se faire connaître. C'est le coup de cœur des Chroniques Payot. Donc en Suisse, ça commence à bien se diffuser. Et il y a aussi European Literature Network qui en parle aussi maintenant. Et votre livre, il a déjà été traduit en anglais, mais est-ce qu'il y a d'autres traductions en cours ?
Alors, le livre n'a pas encore été complètement traduit en anglais. En fait, ce programme de traduction, c'était aussi vraiment une super surprise pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ce que le livre marche aussi comme ça. Mais c'est c'est en fait une association qui veut promouvoir certains livres écrits en Suisse pour des potentielles traductions en anglais, en fait. Et puis, donc le livre a été sélectionné dans ce programme. Et là, donc, il est en train d'être diffusé un peu à des éditeurs en Angleterre, dans l'espoir que ça puisse peut-être être traduit. Donc, ce qui serait vraiment génial. Enfin, j'adorerais lire Survivante en anglais. Et puis sinon, les traductions, ça dépend vraiment toujours un peu des maisons d'édition à l'étranger, en Allemagne ou en Italie, qui reçoivent aussi un peu plein de livres à découvrir, et puis qui décident d'un ou deux ouvrages à traduire.
Alors nous avons lu Survivant dans le cadre scolaire, et certains d'entre nous ont déjà fait des podcasts sur ce roman. Ils sont disponibles sur Clapared-Clapread. Sur Google, évidemment. Alors, c'est un livre de poche sous format de journal intime de 141 pages, ayant pour couverture une photographie du double. Il est chronologique, ce qui facilite la vie du lecteur, et merci. Et chaque jour est numéroté à partir du moment où une coupure de courant définitive a lieu au début de la fin du monde. En réalité, il y a un deuxième sens, c'est celui de la rupture. Nous en parlerons plus tard avec les autres groupes. À présent, je vous laisse avec Natacha, qui, grâce à son fameux True Story, permettra à nos chers auditeurs et à vos lecteurs de mieux vous connaître.
Alors voilà, maintenant place à l'interview True Story. Alors déjà, j'aimerais savoir si vous connaissez le principe de l'interview True Story.
Pas du tout, non.
Non, alors je vais vous expliquer, ça va être très facile. Donc juste sur l'écran là en face, vous allez avoir des phrases qui vont s'afficher, et c'est une manière, donc c'est une interview un peu plus décontractée, on va dire. Donc il va y avoir des phrases, et vous allez avoir donc des phrases à trous, d'où True Story.
Ah.
Et vous allez devoir remplir les trous avec les mots évidemment que vous choisirez, et ça permettra de poser des questions un peu plus... courte, si je peux dire. Voilà. Donc on peut commencer. Voilà. Alors voilà, vous devez juste lire. Donc lisez tout, et puis s'il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, vous pouvez juste passer à la prochaine.
Bonjour, je m'appelle Julie, et mes proches m'appellent aussi Julie, parce que j'ai pas vraiment de surnom. C'est même peut-être quelque chose qui me distingue assez. Enfin, je me souviens même, mes parents m'ont raconté quand j'étais tout petite, en fait, ils m'appelaient mon petit chou. Puis moi, je disais non, je m'appelle pas mon petit chou, je m'appelle pas mon roudoutou, je m'appelle Julie, c'est tout. Donc voilà. Je suis née le 7 février 1989, soit le même jour qu'une de mes amies Marion. Mes idoles, quand j'étais petite, étaient Harry Potter et... Julien Turler, le joueur du hockey club La Chaux-de-Fonds. Et j'avais une affiche des Spice Girls dans ma chambre. Ma vision de la pire journée serait de commencer la journée en me réveillant à 5h du matin et de la terminer devant faire un débat politique avec une personnalité que je n'aime pas du tout. Ma plus grande phobie... c'est peut-être de me retrouver dans une foule très dense et très serrée. Et je dois l'affronter quand je vais à des festivals de musique. En cas de fin du monde, j'emporterai 3 objets... mon ordinateur portable s'il y a toujours du Wi-Fi. Le tome 4 de Harry Potter. Et une brosse à dents. Mon animal totem est le marcassin. Et si je pouvais me réincarner en un animal, ce serait... la pieuvre. Je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais si j'en avais, ce serait sans doute une tortue qui s'appellerait Scarole. S'il n'y avait plus qu'un seul aliment que je pouvais manger, ce serait des fruits. Et puis des litchis, voilà, si je devais vraiment choisir un seul. Mon plat préféré, c'est les lasagnes végétariennes. Et pour le cuisiner, il faut un peu de patience. Les adjectifs qui me définiraient le mieux... sont peut-être introvertis, sarcastiques et gentils. Mon pire défaut, c'est peut-être... que je suis rancunière. Si je pouvais partir en voyage demain, j'adorerais partir en Corée, parce que ça doit être incroyable, et puis que je rêverais d'aller pouvoir manger un bibimbap à Séoul. Le voyage que j'ai préféré... c'est vraiment difficile, mais je dirais peut-être était au Japon, et c'était il y a 5 ans, je dirais, mais je suis très nulle avec les dates. Alors, si je pouvais avoir un super pouvoir, je choisirais de pouvoir me téléporter. Dernièrement, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu le dernier livre de Lola Lafont, dont j'ai oublié le titre, et je l'ai trouvé super. Le livre que je garde à mon chevet n'existe pas parce que je les range en général dans ma bibliothèque. Mon livre préféré... c'est Harry Potter, parce que c'est vraiment le seul livre que je relis régulièrement et puis qui me fait toujours le même effet qu'à la première lecture. Je termine cette interview en vous citant ma citation préférée. Oh, je sais pas de citation, je crois. Je peux vous citer ma devise familiale que j'ai découvert. Dans les papiers de mon grand-papa récemment. Donc, notre écusson, c'est un scorpion. Et donc, le motto de la famille Guinan, c'est « sans venin ». Voilà.
Très bien. Merci beaucoup.
Alors, on va repasser à quelques questions un peu plus sérieuses. Donc, on a vu que vous faisiez partie du collectif d'auteurs Lajar. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus précisément quel est le projet ?
Oui, donc Lajar, c'est un collectif d'auteurs qui ont... Enfin, on a entre 25 et 35 ans. Et puis, l'idée à la base du projet, c'était de... d'écrire ensemble, en fait, de se dire qu'on avait tous envie d'écrire, mais qu'on avait du plaisir aussi à partager la passion de l'écriture. Donc, c'était de réfléchir à des projets qu'on pouvait faire à plusieurs. Et depuis 2012, maintenant, on fait des performances, on a publié aussi quelques récits à plusieurs mains, on fait des ateliers d'écriture aussi. On essaye de montrer que la littérature, ça peut être quelque chose de plutôt fun et puis qui se partage.
Et puis, est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans votre carrière d'écrivaine ?
Ben, ça m'a apporté vraiment beaucoup, en fait. Je me dis même des fois que si j'avais pas rencontré ces autres personnes et puis si j'avais pas fait partie de ce collectif, j'aurais sûrement pas écrit toute seule parce que ça, bah, surtout, ça m'a donné du courage, en fait.
Et puis, alors, on dirait que l'écriture, donc, occupe une grande place dans votre vie. Donc, quand est-ce que vous avez commencé à écrire ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ?
Ben, j'ai commencé à écrire vraiment très petite, en fait, des journaux intimes. J'avais, après Harry Potter, j'avais commencé d'écrire une saga fantastique. Et puis après, donc, il y avait eu ces deux concours d'écriture pour jeunes, où là, c'était un peu mes premiers textes que je menais jusqu'au bout. Et le vrai déclic, en fait, c'était à la fin de l'Uni, où là, j'ai décidé, en fait, de prendre du temps pour écrire un premier livre.
Donc, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à écrire tout le temps ? Qu'est-ce qui vous inspire et...
Ben, que je remarque qu'en fait, il n'y a rien qui m'apporte autant que ça. En fait, que c'est vraiment une pratique qui me permet de connaître un peu mieux le monde, de me connaître aussi mieux moi-même. Et puis que s'il y a des longues périodes où j'écris pas, je me sens pas très bien, en fait.
Donc on peut voir dans votre livre qu'il y a, par exemple, de nombreuses références à Harry Potter. Donc est-ce que votre lecture a aussi une influence sur votre écriture ? Est-ce que vous vous inspirez des auteurs que vous lisez ?
Ben, je pense que oui, en fait. Je pense forcément il y a des styles qui me parlent plus et puis que je m'en imprègne. Et puis après, ça ressort aussi d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus que les livres, en fait. Par exemple, que les séries télé, en fait, ça influence beaucoup ma façon d'écrire aussi dans peut-être l'envie de faire des choses un peu... avec des formats où on a envie toujours de savoir la suite, ou bien avec une multiplication de personnages, ou de pouvoir prendre le temps aussi de développer des intrigues avec plusieurs lieux, plusieurs groupes de personnes.
Ok. Pour le projet du roman des romans, vous avez dû écrire un texte sur vos 17 ans. Qu'est-ce que vous retenez en particulier de cette période ? Est-ce que ça vous a fait revenir des souvenirs ?
Ouais, c'était chouette de me replonger là-dedans. En fait, j'ai fait une petite recherche aussi sur Google de mes années de lycée, et puis de revoir un peu ce que c'était les modes vestimentaires, ou bien de réécouter la chanson de Daniel Potter que j'avais plus réentendue, je pense, depuis cette époque-là. C'était une belle nostalgie, en fait, parce que c'était des belles années.
Et est-ce que ça vous a fait remarquer que quelque chose en particulier vous manque de cette époque ?
Ben, ce qui me manque un petit peu, des fois, c'est un peu l'ambiance de classe, en fait, de collège, parce que j'étais vraiment dans une super classe où j'étais à chaque fois contente d'aller, on faisait plein de trucs ensemble, et puis là, c'est différent, parce que... Avant, c'était des gens que je voyais tous les jours, et puis que c'est des amitiés assez fortes, en fait.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Alors, on va vous passer bientôt une musique, et ensuite, vous allez recevoir l'équipe du Palmarès Futé qui vont vous faire une analyse un peu plus précise du livre.
Merci beaucoup. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste.
You wanna inch it, inch it, ay, ay.
Come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
Palamède futé. Le palmarès des génies.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être toujours à l'écoute. Il est actuellement 10h38. Bonjour Marc, comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Bah, ça va très bien, merci. Bonjour Bertrand, comment ça va ?
Très bien, merci.
Et surtout, bonjour Julie Guinan.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bonjour.
Très bien, merci.
Et surtout, car nos collègues ont eu le temps de le faire, mais nous pas encore, on tenait à vous remercier d'être venus pour cette émission très spéciale. Voilà, quand on a appris à la rédaction de Palmette Futé qu'on allait vous recevoir, on se réjouissait tous qu'on avait fait une émission où on parlait justement de votre livre, Survivante. Et ce n'est pas tous les jours on peut confronter notre analyse directement avec l'auteur. Et pour ça, on vous en remercie.
Bah, merci à vous, je me réjouis.
Alors justement, on va reparler de cette analyse, puis celle d'un autre groupe d'experts littéraires. Et après ça, on va aborder le thème de la dépendance technologique, qui est un thème assez inhérent à votre livre. On va parler de la dépendance, d'un retour aux sources également. Partie qui sera rythmée par un micro-trottoir. Pour la partie analyse, on aura l'honneur de recevoir le professeur Müller, expert en littérature, qui était déjà présent lors de notre émission sur Survivante. Alors, quand je préparais cette émission, je suis tombé par hasard sur une interview qu'a donnée le professeur Müller, un journaliste que j'adore, en plus je trouve qu'il a une voix super charismatique, où le professeur Müller résume notre analyse ainsi que l'analyse de l'autre groupe d'experts. Écoutons. Bonjour professeur Müller, merci de vous être déplacé en cette belle soirée propice à l'élargissement de nos connaissances. Comment vous portez-vous ?
Alors, tout d'abord, bonsoir, car je considère à titre personnel que le terme bonjour est quelque peu désuet au bout d'un certain moment, vous comprenez, il est 18h, ce n'est plus la journée, c'est plutôt le soir, il est mieux d'utiliser le terme bonsoir.
D'accord. Alors, donc, votre présence a été remarquée dans la célèbre et prestigieuse émission littéraire Palamède Futé, où vous avez parlé du livre Survivante, écrit par la talentueuse Julie Guinan. Mmh. Vous avez évoqué plusieurs points très intéressants. Mmh. Quel serait le plus important pour vous ?
Alors pour moi, le point principal du développement de ce podcast, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Clapcast Claparette, je crois, c'est l'évolution du personnage principal, excusez-moi, à travers les différentes phases du deuil. Donc pour nous, avec l'organisation Palamède Futé, que d'ailleurs je tiens à saluer pour l'accueil digne de ce nom, notamment, ce n'est pas anecdotique, mais le tapis rouge, le vin de qualité et, petit péché mignon, les M&M stripes par couleur, je tiens à les en remercier. Pour ce qui est du développement, nous avons travaillé sur l'évolution donc du personnage à travers les phases du deuil. Nous avons choisi un système à 8 étapes. Nous avons commencé par le choc, donc le moment où la survivante se rend compte très simplement que, tout au début du livre, que c'est la fin du monde. Ensuite, le déni, le fait de ne pas accepter la situation, la colère, donc qui découle d'une réflexion et d'un questionnement. Pourquoi moi ? C'est ainsi que nous avons abordé le thème de la colère, puis de la dévalorisation, ensuite du regret. Le regret pourrait peut-être aller à un autre moment, mais il s'encastre bien dans la continuité du livre. Ensuite, l'acceptation. Pour moi, c'est le moment, à ce moment-là, en tout cas, que la survivante commence à remonter doucement la pente. Elle accepte la situation telle qu'elle est. Ensuite, nous avons affaire à la phase de la reconstruction, qui est une grande phase dans le livre, qui est d'ailleurs, petite interprétation personnelle, si vous avez écouté le podcast, vous l'avez certainement compris, j'ai comme analyse que la reconstruction est coupée par une rechute qui est symbolisée par l'ogresse qui vient un peu casser le quotidien qui est en train de se construire de la survivante. Ensuite, nous avons enfin, j'ai envie de vous dire, la libération. Et donc c'est sur cette analyse-là que s'achève le livre.
Alors, merci beaucoup, professeur Müller, pour ce résumé de cette analyse. Il me semble avoir entendu d'autres groupes littéraires qui parlaient d'autres explications. Est-ce que vous en avez un petit peu entendu parler ? Peut-être nous résumer quelques points ?
Alors, oui, il est vrai que sur Clapcast Claparède, on trouve d'autres analyses, tout aussi qualitatives, du moins, dont un qui m'a particulièrement plu, Radio Double, je crois, qui parle de la prétendue folie du personnage principal. Mais je vous invite à... Je ne vais pas vous le résumer, je vous invite à l'écouter vous-même.
Alors écoutez, merci beaucoup. Dernière petite question. Selon vous, était-ce l'intention de l'auteur de passer par ces différentes phases de deuil pour la reconstruction du personnage ?
Ah, ça, c'est difficile à dire, à moins de l'avoir en face de soi et de pouvoir demander à Julie Guinan elle-même son avis sur la question. Qu'est-ce qu'elle en pense? Pourquoi? Naninana. Mais ça, il faudra une interview et je n'ai pas les moyens. Mais personnellement, je pense sincèrement que oui, tout porte à croire en tout cas que dans le livre, elle utilise ses phases. Oui.
Merci beaucoup, professeur Müller.
Good morning. Alors, pendant ce temps, le professeur Müller nous a rejoint. Bonjour, professeur Müller.
Bonjour.
Alors,
bonjour, madame Guinan. C'est un honneur pour moi et pour vous de me rencontrer. Comme vous venez de l'entendre, nous avons émis comme hypothèse que le personnage principal évoluait et traversait les différentes phases du deuil tout au long du livre. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette interprétation ?
Ben déjà, je dois dire que c'est vraiment un honneur de vous rencontrer. J'ai beaucoup suivi vos travaux depuis le début de votre carrière. Donc c'est vraiment pour moi très, très particulier de me retrouver aujourd'hui ici avec vous. Donc merci. Et puis merci pour votre analyse aussi très fine en fait du roman et du personnage. Parce que même si on peut discuter peut-être de quelle phase elle traverse et puis dans quel ordre et comment ça se passe, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti comme ça et que j'ai voulu mettre dans le livre. Donc effectivement, il y a des phases que l'héroïne traverse et qui bougent du début à la fin, et on peut voir ça aussi comme une pente qu'elle remonte gentiment, avec des fois des rechutes, avec des fois des moments un peu plus lents. Mais vraiment un peu cette ascension jusqu'au moment du départ.
Alors, tout d'abord, sachez que c'est un grand plaisir d'être confirmé par l'auteur lui-même. Et deuxièmement, est-ce que vous avez vraiment schématisé votre livre selon les différentes phases du deuil, ou est-ce que vous avez plutôt écrit selon votre propre expérience et vos sentiments ?
C'était vraiment plutôt ça, en fait. Parce que pour contextualiser aussi l'écriture de ce livre, donc ça parle, c'est vrai, c'est un peu une superposition de fin du monde. Il y a la fin du monde réelle, on pourrait dire, avec la coupure de courant, avec l'absence des oiseaux, des voitures, enfin quelque chose de très bizarre qui est en train de se passer. Et il y a sa fin du monde personnelle, la narratrice, où on comprend qu'elle est en train de vivre une rupture. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui résonnait beaucoup pour moi à ce moment-là, parce que j'ai vécu une rupture juste avant l'écriture du livre. Et j'avais pas forcément au départ l'idée d'écrire là-dessus. J'avais plutôt envie d'écrire un récit un peu post-apocalyptique, vraiment un peu plus fictionnel. Mais ça m'a un peu rattrapée. Enfin, c'est un moment où j'avais besoin d'écrire. Et puis en fait, ça me prenait tellement de place dans ma tête que j'ai un peu naturellement écrit là-dessus. Et en fait, à côté de l'écriture de Survivante, j'avais mon propre journal intime de ce moment particulier de ma vie. Et en fait, Survivante reprend un peu les étapes. Donc c'est un peu les étapes que j'ai vraiment traversées et qu'on peut vraiment comparer à des étapes d'un deuil, en fait. Parce que c'est pas un deuil en tant que la personne n'est pas morte, mais finalement, c'est un peu la fin d'une vie, quoi, d'une partie d'une vie.
Alors justement, dans une interview que vous avez accordée, je cite, vous dites « Les émotions que décrit la narratrice dans son journal sont très proches de celles que j'ai ressenties et je partage beaucoup de réflexions avec elle. » Alors j'ai comme question, dans quelle mesure vous êtes inspiré de votre propre expérience, et est-ce que vous avez vécu vraiment certains passages de votre livre au niveau émotionnel, par exemple ?
Oui, alors après ça c'est toujours un peu
La limite entre...
Oui, ouais, la limite entre le réel et la fiction, un peu ce qui est de l'ordre de l'artifice ou du réel. Enfin, des fois, ça s'entremêle vraiment. Puis même pour moi, c'est pas toujours facile de mettre le doigt sur ce qui est vrai ou pas vrai. Mais ce qu'on peut dire de Survivante, c'est que clairement, il y a des passages qui sont au plus proche de ce que j'ai ressenti. Donc, je dirais toute la partie un peu émotionnelle ou description de l'intériorité de la narratrice, ça, c'est des choses que je peux relier à ce que moi, j'ai ressenti. Après, ce qui s'éloigne aussi un peu plus de la réalité, c'est un peu le contexte. J'ai jamais vécu de coupure de courant. J'ai jamais été aussi isolée. J'ai jamais vécu dans une maison au bord du Doubs toute seule. Donc, c'est là aussi que la fiction, elle vient un peu brouiller les pistes.
Ok, très bien. Alors, pour revenir sur la fin du livre, on sait qu'à la fin de votre livre, vous avez envisagé beaucoup de scénarios pour le futur de la survivante. Aucun ne vous a pleinement convaincu et vous n'aviez pas envie de trancher pour elle. Alors aujourd'hui, pensez-vous que votre propre scénario serait l'exemple parfait à suivre pour la survivante?
Je ne sais pas si c'est l'exemple parfait, mais en tout cas, je lui souhaiterais assez ça, quoi. Après, c'est là peut-être que la fiction, elle prend un autre chemin aussi que le réel. C'est peut-être au niveau fictionnel, c'est moins intéressant d'avoir vraiment pour survivante peut-être vraiment un happy end, parce que finalement, ça enlève aussi de la complexité. Et puis, moi, j'aime bien le fait que tout à coup, ça peut aussi virer sur un scénario catastrophe. C'est pas inintéressant. Et puis, ça peut amener quelque chose. Mais dans son parcours intime et personnel, oui, je lui souhaiterais assez ça.
Alors, pour finir, ma dernière question, la plus cruciale. Dans votre livre, vous faites beaucoup de références à des séries, notamment, et des livres, notamment Harry Potter, dont je suis aussi très fan. Une série qui a retenu mon attention, c'est un moment où vous parlez de Naruto. Alors, est-ce que finalement, vous avez pu finir Naruto ?
Non, et puis, alors, ouais. En plus, là, je ne sais pas pourquoi, vraiment, j'ai changé ça, parce qu'en vérité, moi, je n'ai pas vraiment regardé les Naruto, j'étais en train de regarder les One Piece. Ce qui, je pense, est à peu près égal en termes de nombre d'épisodes, parce que je m'en étais arrêtée, je ne sais plus, au 878e épisode, quelque chose comme ça. Et non, en fait, pour moi, la série One Piece s'est terminée aussi avec la rupture.
Je comprends, c'est difficile à finir.
Alors justement, on pourrait revenir sur une interprétation qui était, lors de la phase de la reconstruction, une potentielle rechute symbolisée par le Grèce. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que c'était l'objectif recherché?
Oui, et puis ça permettait plusieurs choses dans le livre, en fait. Parce que finalement, c'est un livre où il se passe pas beaucoup de choses. Enfin, c'est des petites étapes intérieures. Et puis, j'avais un peu peur qu'on perde le rythme, en fait, qu'on commence à... trop s'asseoir aussi, puis à perdre l'intérêt en fait du livre. Donc j'avais envie qu'il se passe quand même un événement un peu plus spectaculaire entre guillemets, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose à un moment du livre pour relancer l'intrigue aussi. Donc ça, c'était une idée. Finalement, ça collait aussi à ce que moi j'ai pu vivre, c'est-à-dire que c'est pas non plus, je trouvais que c'était pas un processus où on monte et ça va toujours mieux. C'est que des fois on monte, puis tout à coup on retombe et puis on se dit merde, en fait ça va pas si bien que ce que je pensais, puis il faut recommencer. Donc c'était à la fois en fait pour le bien de la fiction, puis pour un peu de vraisemblance.
Et également, dans votre livre, beaucoup de passages sont assez métaphoriques, parce qu'il y a justement cette question de double interprétation entre la fin du monde un petit peu réel et la fin du monde qui fait référence à une rupture. Est-ce que quand vous avez écrit, vous avez vraiment fait attention de tourner vos phrases de façon à ce qu'elles collent pour les deux, ou alors c'est plutôt venu assez naturellement?
La plupart du temps, c'est vraiment venu naturellement, en fait. C'était vraiment... je sais pas, c'est comme si les pièces, elles s'agençaient d'elles-mêmes, en fait. Je pense que l'idée de départ, elle était vraiment réfléchie, en fait. J'avais réfléchi à comment plaquer un peu ces deux fins du monde, à comment doser peut-être aussi la présence du tu et puis du toi, enfin, pour faire comprendre, mais pas trop non plus, qu'il y avait une autre personne et puis que c'était peut-être pas qu'une fin du monde électrique, si on veut. Mais après, le reste a vraiment coulé un peu tout seul.
Justement, la figure du toi qui est très intéressante, car on comprend assez bien que le livre est destiné à une personne. Est-ce que ce livre serait un petit peu une réponse, voici ce que je suis devenu, ou plutôt une avancée personnelle juste simple comme ça?
C'est un peu toutes les questions aussi, en fait, que je me suis posée un peu après l'écriture du livre, en fait. Parce que sur le moment, c'est juste que j'avais... envie, un peu besoin de l'écrire, en fait. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis une fois que tout à coup j'ai mis le point final, j'ai eu tout à coup pas mal d'angoisse aussi de me dire oh là là, ce livre va être publié, les gens vont le lire, les gens de ma famille vont le lire, ce tu vas le lire aussi, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, en fait. Et puis peut-être tant mieux que je me suis pas trop posé la question en écrivant, parce que sinon j'aurais peut-être pas écrit, en fait.
Merci. Alors, il y a comme on en avait parlé, une autre interprétation d'un autre groupe d'experts littéraires qui parlait d'une potentielle folie du personnage. Quel est un petit peu votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous voulez écrire ce personnage justement un petit peu fou ou pas, ou nuancé?
Nuancé en tout cas, ouais. La folie, J'aimais bien qu'elles soient un peu sous-jacentes et puis qu'on puisse avoir le doute, en fait. C'est-à-dire que c'est possible que tout se passe dans sa tête, en fait. Puis même pour moi, c'est pas forcément clair. Enfin, disons, si je devais pencher pour une interprétation, moi je dirais qu'il se passe quand même des choses dans le monde qu'elle maîtrise pas, puis qui sont pas que en fait des fantasmes qu'elle vit, en fait. Mais j'aimais bien qu'il y ait quand même ça qui plane un peu tout le long du livre quand même.
Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. On va passer à un autre point qui est un point assez important, qui est le point de la dépendance technologique, car vous exprimez à plusieurs reprises la notion de la dépendance technologique dans votre livre. Et le personnage qui au début se plongeait dans un ennui sans pareil en ce manque de technologie qu'elle adorait tant, mais on remarque au fur et à mesure du livre que le personnage principal tend à se détacher de la technologie, effectue comme un retour aux sources. Alors on a justement un micro-trottoir à ce sujet.
Que pensez-vous de la dépendance aux technologies ?
Je pense qu'on est beaucoup trop dépendant de la technologie et que de nos jours, on n'arrive plus assez à faire la part des choses.
Je pense que la dépendance aux technologies, c'est pas bien parce que la technologie, ça crée des maladies, comme le cancer par exemple, et que maintenant, la technologie elle est tellement présente dans nos vies qu'on n'arrive plus à l'enlever et qu'on l'instruit un peu partout, enfin on la met un peu partout, et que maintenant elle est même à l'école alors qu'avant il n'y avait pas et on arrivait très bien sans.
Je pense que la dépendance aux technologies est une mauvaise chose, puisque avec l'arrivée de nouvelles technologies de plus en plus perfectionnées, on ne sait plus faire les choses de base soi-même, et je pense que ça nous remplace.
Alors je pense qu'il faut avoir un juste milieu et pas en abuser sans non plus... par exemple, ces gens-là, ils auraient pu prendre un overboard au lieu de courir comme ça.
Personnellement, je pense pas que la technologie, ça a que du bon. En effet, il y a de plus en plus de vidéos violentes qui vont tourner sur les réseaux sociaux et cela, ça peut inciter les gens à faire des choses également violentes et des actes criminels, ce qu'il y avait peut-être moins avant les réseaux sociaux.
Je pense que la dépendance à la technologie est mauvaise car on en abuse, mais le monde évolue et la technologie avec, et on peut plus s'en passer.
Je pense qu'il faut arrêter de blâmer la technologie car ce n'est pas elle qui nous fout en l'air.
Alors, on remarque que les avis quant à la dépendance aux technologies diffèrent assez, même chez les jeunes. Du coup, je pense que la première question qu'on peut vous poser, c'est simplement, qu'est-ce que vous pensez de la dépendance aux technologies ?
Moi, j'aurais plutôt aussi un avis un peu nuancé, dans le sens que ça me pose des questions, clairement, de savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que ça a comme impact. Mais je serais assez d'accord avec l'avis qu'il faut peut-être arrêter de diaboliser aussi complètement la technologie. Il y a vraiment des choses vraiment utiles et vraiment... Enfin, c'est pas non plus le mal absolu, la technologie. Et puis, par contre, je trouve que c'est important de se poser la question.
D'accord. Est-ce que... Enfin, on remarque dans votre livre que la protagoniste, elle se détache petit à petit, justement, de ces technologies. Est-ce que vous pensez que la lecture de ce roman amène aussi à une remise en question du lecteur par rapport à ce sujet ?
Je pense que c'est une lecture possible, en tout cas. Et puis, je pense que c'est peut-être aussi particulier maintenant, enfin, dans le sens où... moi, j'ai écrit ce livre l'année passée, donc on ne parlait pas encore du tout de Covid ou de confinement ou de... Et j'ai des personnes qui l'ont lu avant et après et qui n'ont pas eu du tout la même lecture non plus du livre, en fait. Et puis, je pense que le lire à un moment où on était confiné aussi, ou semi-confiné, et puis où on est forcé aussi de se poser certaines questions sur qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on a devant nous. Enfin, ça fait lire aussi peut-être le livre un peu différemment et puis plus focalisé sur ces questions-là. Moi je me dis si ça pousse les gens à réfléchir un peu sur ça, tant mieux quoi.
Donc vous, quand vous l'avez écrit, c'était pas votre but premier de montrer ça?
Non, c'était plus un peu un, on pourrait dire, effet secondaire, c'est-à-dire que des questions que j'ai été forcée de me poser en imaginant cette situation, parce que du moment que j'avais envie qu'il n'y ait plus d'électricité, en fait je me suis dit, en fait, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus... Donc, en fait, qu'est-ce que ça ferait concrètement s'il n'y a plus ça ? Ce n'est pas juste qu'il n'y a plus de lumière, en fait, c'est que le monde, il change vraiment autour de ça.
D'accord, merci.
Est-ce que vous pensez justement que cette protagoniste, dans l'environnement qu'elle vit, est-ce que si vous étiez à sa place, est-ce que vous verriez ça comme plutôt un cauchemar ou quelque chose d'assez réjouissant, entre guillemets?
Bah, je pense que je verrais un peu les deux. Peut-être ça dépendrait un jour, ce serait plutôt que je trouverais, mais c'est super, ça me donne l'occasion de faire des choses que je faisais plus ou moins. Et puis un jour, je me dirais, oh, bah, ça fait chier quand même, je ne peux pas regarder la suite de ma série. Donc je pense que j'oscillerais un peu entre les deux. Et puis, ouais, finalement, bah, je pense qu'on a une capacité d'adaptation qui est quand même énorme. Et puis que bah, j'espère que je finirai par pouvoir tirer le positif de ça, en fait.
Justement, est-ce que vous pensez que dans notre monde, nous devrions davantage revenir aux sources, aux vraies choses ?
Bah, je ne sais pas si on devrait, mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien quand même de le faire.
Par exemple, vous conseillerez quoi? Vous auriez quelles suggestions pour justement retourner?
Ben, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, ben, et dans un moment difficile, mais j'ai ressenti aussi beaucoup ça, par exemple pendant le semi-confinement, que la proximité avec la nature, c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Et puis je trouve que ça m'a rappelé en fait que des fois, juste prendre une heure dans sa journée pour aller marcher, en fait, ça libérait l'esprit. Donc c'est peut-être pas vraiment un conseil, mais en tout cas de dire que ouais, ben personnellement moi c'est quelque chose qui me ressource, et puis que c'est possible que ça puisse être le cas pour d'autres personnes.
Donc la plupart du temps vous conseillerez aux gens d'aller faire des promenades ou quelque chose d'autre en particulier?
Ben des promenades, je dirais, ouais, c'est chouette. Et puis sinon peut-être de bah de se souvenir aussi peut-être de choses qu'on a aimé faire à un moment de notre vie et puis qu'on a laissé de côté parce qu'on est des fois pris par un peu la machine du quotidien. Donc moi ce livre, ça a été aussi l'occasion en fait de me souvenir un peu de des choses qui personnellement me font du bien ou me font plaisir. Et puis je pense qu'on a toutes et tous un peu ça quand même dans nos vies, enfin des choses qu'on aime faire, qui nous ressourcent, et puis de les avoir en tête quelque part, en fait, ça aide dans les moments plus difficiles.
Est-ce que justement ce retour un peu à l'enfance vous aurait donné des idées pour justement retourner aux choses plus primordiales?
À l'enfance?
Pas vraiment à l'enfance, mais justement à vos 19 ans.
En tout cas, ça m'a rappelé qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ma vie, en fait, que j'aimais faire à 19 ans, que j'aime toujours faire maintenant, et puis qu'il y a d'autres choses que j'aime plus faire, et puis que c'est OK aussi, en fait.
Merci beaucoup. Une dernière micro-question. Vous parlez beaucoup dans votre livre de choses que vous auriez fait si vous aviez su. Alors, après avoir écrit ce livre, vous avez peut-être pris conscience que ça pourrait arriver, une fin du monde comme ça. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous... En tout cas, tout ce que la survivante dit, « Ah, je me serais renseigné sur comment survivre. » Est-ce que vous-même, vous l'avez fait?
Non. J'ai pas du tout appris de mes erreurs. J'ai pas imprimé 50 pages sur les choses basiques. Non, je suis très nulle pour ça.
Bah, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à la régie.
Et, merci.
Merci.
Eh bien, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Madame Guinan, d'avoir accepté l'invitation. Pour cette fin d'émission, on va procéder à une critique un peu du livre, notre avis. On passera ensuite à une interview où on vous posera des questions sur le livre, sur votre parcours. Ce sera libre à vous de répondre, si vous voulez pas répondre, c'est comme vous voulez. Le but c'est de parler et d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre position par rapport au roman des romans, le concours. Et on clôturera cette émission. Je vais demander à mes fabuleux chroniqueurs qu'est-ce que vous pensez un peu du livre et qu'est-ce que vous pouvez me dire. Moi, par exemple, j'ai bien aimé le livre. J'ai bien aimé le fait de retrouver un scénario un peu catastrophe du monde. Sur une ambiance assez calme, ça, c'est très posé, j'aime bien. Et je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude, par exemple au cinéma ou même dans la littérature où c'est souvent un gros élément perturbateur dans une ville, tout le monde qui crie, machin. Là, non, c'est très posé, j'aime bien. Et c'est juste l'électricité qui se coupe, et c'est plusieurs jours après que, petit à petit, on comprend un peu, plus ou moins, la fin d'une société. On ne sait jamais réellement si c'est sûr ou pas. On reste un petit peu, je trouve, dans la question. Mais par contre, je trouve que après, c'est moi, comment je l'ai ressenti. J'ai trouvé un peu bizarre que le personnage, jamais il essaye de gérer la situation, en fait. Je me demande pourquoi jamais elle essaye de rejoindre la civilisation, pourquoi elle essaye pas de retrouver sa famille, pour savoir, avoir une réponse à tout ce qui se passe. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur ça, vous en pensez quoi?
Ben, c'est vraiment une très bonne question, en fait, parce que y a quelque chose d'un peu bizarre. Et puis, je dois dire que si moi, j'étais à la place de la narratrice, je pense que, comme vous dites, j'aurais aussi cherché à être un peu plus proactive. Je pense que la première chose que j'aurais faite, c'est de chercher à contacter ma famille, en fait. J'aurais pas du tout attendu, je sais pas, 4-5 mois avant de chercher à le faire. Mais là, c'était vraiment plutôt un parti pris littéraire, en fait. C'était vraiment que j'avais envie que tout le livre se passe au même endroit et que pendant tout le livre, elle soit seule. Et puis du coup, j'ai dû un peu, comment dire, tirer un peu sur la corde de cette solitude et puis faire en sorte de trouver un peu des débuts d'explication à pourquoi est-ce qu'elle part pas, en fait. Et puis, ce qu'on peut... Moi, comment j'imaginais un peu la chose, c'est de se dire que, en fait, c'est tellement le choc, elle est tellement en état de choc, en fait, qu'elle n'a pas vraiment la capacité, elle n'a pas les ressources encore nécessaires pour le faire, en fait. C'est comme si elle agit un peu en mode robot, c'est-à-dire qu'elle fait les choses qu'il faut qu'ils soient faites. Donc, elle mange, elle dort, et puis au-delà de ça, en fait, elle n'a pas vraiment l'énergie de faire autre chose. Et puis, c'est que, au fur et à mesure de son évolution et de son parcours, qu'elle elle trouve un peu la force morale de partir, en fait.
Et à aucun moment, au début, elle se dit pas quand même. Comment elle peut être sous un état de choc alors que c'est Sikane, je veux dire, elle perd juste l'électricité et Internet. Et vous dites qu'elle est vraiment sous le choc, mais je comprends pas trop cette idée, puisque pourquoi elle va pas voir autre part, elle se dit pas que c'est que chez elle, alors vu qu'elle est un peu retirée.
L'état de choc, il vient du fait que même si en fait les signes de la catastrophe sont vraiment minimes, elle le ressent comme un effondrement intérieur, en fait. Après, ça peut être aux lectrices et lecteurs de décider si si en fait il y a une raison d'être ou pas à ça, mais en tout cas elle, elle vit ça comme, comme un effondrement, et puis c'est comme si elle avait un peu la, la prescience ou l'intuition qu'il y a quelque chose de vraiment dramatique qui est en train de se passer, et qu'en fait elle a de la chance d'être à l'endroit où elle est, parce que partout ailleurs en fait c'est une vraie catastrophe en fait, et puis qu'elle a meilleur temps de rester dans un endroit qui est sécurisé plutôt que de se mettre en danger pour aller affronter l'inconnu.
Moi je me disais que c'était possible qu'elle suivait sa vie qu'elle avait avant, une vie un petit peu de recluse, même si elle n'est pas totalement éloignée de la société, mais pour se soulager un peu de ces événements qui lui arrivent d'un coup assez soudain, hein, c'est pas quelque chose qui est venu avec une prévention, c'était un peu sa manière de d'agir avec et de continuer à vivre même avec cette peur que peut-être dehors la société est complètement éteinte d'une certaine manière.
Ben, je pense que c'est très juste, en tout cas moi je l'ai aussi vu un peu comme ça, dans le sens où ben, sa seule manière de continuer à vivre c'est de faire ce qu'elle faisait avant, mais en, en très très ralenti en fait. Et puis après au final on sait très peu de choses en fait sur sa famille ou ses amis, enfin on sait pas si elle a des amis, peut-être qu'elle a aussi une famille qui habite très loin, enfin c'est aussi enfin comment dire, là c'est vraiment un peu le parti pris de créer un univers qui est pas forcément un univers ultra réaliste, dans le sens c'est un peu des codes particuliers, et puis ces codes à elle c'est pas nos codes à nous. Et puis comme nous, on réagirait finalement, pour elle, ça fait pas de sens. Elle a un peu sa propre logique, en fait.
C'est fait pour un peu avancer le concept de fin du monde, et puis pour garder des informations, un peu pour construire une tension. Par exemple, l'arrivée de l'ogresse, ça révèle qu'il y a d'autres personnes dehors, et qu'on n'en sait pas tout, et que ça reste mystérieux. Et puis, après, ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être qu'il y a une civilisation qui n'est peut-être qui ne serait peut-être pas positif pour elle.
Ben c'est possible aussi. Enfin, c'est vrai qu'on sait aussi qu'elle a fait le choix de se retirer un peu de la civilisation. Ben on sait qu'elle a quand même des liens. Enfin, elle a des téléphones à faire, des mails à écrire, tout ça. Mais je pense que c'est vrai qu'elle a, elle a fait le choix aussi un peu particulier d'aller vivre isolée. Et puis finalement... sa fin du monde, ça l'isole juste encore un peu plus.
Et d'ailleurs, je me demandais, vu que la fin, c'est un petit peu un stop, on reste un petit peu sur notre fin, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous avez déjà peut-être imaginé une suite, ou est-ce que vous pouvez donner une réponse à qu'est-ce qui s'est réellement passé, quel événement il y a eu ?
Moi, dans ma tête, en fait, il n'y a rien de décidé. J'ai vraiment... C'est pas que... Moi, j'ai imaginé vraiment la fin, mais j'avais pas envie que les autres le sachent. En fait, c'est que, moi-même, en fait, je sais pas en fait ce qui va se passer pour elle. Et puis écrire une suite, ça pourrait vraiment être intéressant, en fait, de faire le tome 2 du moment où elle arrive à la Chaux-de-Fonds. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais ce serait vraiment un peu des enjeux différents, en fait, parce que. Là encore, en fait, on rejoint un peu ces deux niveaux de lecture, en fait, dans le livre, où finalement, là, elle a fait un peu, si on veut, le parcours de sa rupture, et puis elle arrive à une sorte de fin à ça, en fait. Donc, au niveau de la lecture un peu psychologique, comme ça, pour moi, le cheminement a été fait. Puis après, au niveau de plus du scénario catastrophe, là, on pourrait tout à fait imaginer un peu une suite. Mais en fait, moi, je suis même pas sûre de savoir quelle suite j'aurais vraiment envie de proposer, en fait.
En parlant des trois dernières suites qui sont à la fin du livre, un peu pour nous laisser choisir pour nous-mêmes, est-ce que vous en avez une que vous préférez, qui peut-être, si vous faisiez un tome 2, vous choisirez cette suite-là comme début ?
Moi, à l'idée aussi un peu du livre, j'avais vraiment envie d'écrire un récit un peu post-apocalyptique. Puis en fait, j'adorerais un jour faire un vrai récit aussi un peu De fin du monde. Et puis dans ce cas-là, je pense que la version un peu western avec vraiment, je sais pas, une ville où tout à coup la société a complètement changé et puis que c'est un peu régi par des sortes de shérifs un peu autoritaires comme ça, puis qu'il y a toute une partie de la population qui est en rébellion, ça, j'adorerais écrire ça en fait. Donc ça pourrait être une suite, mais je trouve en fait ça serait presque un livre différent en fait.
Vous continuerez peut-être à parler sur la rupture en mettant des petits indices comme le toit et des choses comme ça, mais à travers ce concept post-apocalyptique.
Ça pourrait être un parti pris en fait aussi, c'est vrai, de tout à coup continuer un peu les deux histoires avec les deux niveaux, et puis même peut-être tout à coup qu'elle se retrouve confrontée d'une manière ou d'une autre à son passé aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant, c'est clair.
Moi j'ai bien aimé le livre, franchement. J'ai bien aimé l'aspect, enfin, que le récit soit écrit de manière épistolaire, mais en fait d'où est venue l'idée? Pourquoi vous avez pas genre fait comme par exemple La Peste de Albert Camus, qui raconte un peu l'histoire d'un docteur, mais genre vous l'avez vraiment essayé de le raconter comme un journal intime?
Ouais.
D'où est venue l'idée?
Vu que j'avais, enfin, que c'est un récit de un peu de désastre, un peu comme La Peste, mais que c'est quand même aussi un peu avant tout un récit de d'une histoire un peu intime, la forme du journal intime, elle est venue un peu plus de là en fait, que j'avais envie de décrire une fin du monde, mais du point de vue d'une seule personne et puis d'un point de vue très très personnel en fait. Et puis je trouve que le récit, du coup, ça permet un truc plus englobant mais moins focalisé du point de vue intérieur en fait.
Mais donc, sur quel livre ou quel style de livre vous êtes le plus inspiré pour écrire Survivante?
Au niveau de un peu de l'atmosphère, j'ai lu à peu près, enfin à peine un peu avant, un livre d'une autrice canadienne ou américaine qui s'appelle Jean Eglund, et elle a écrit un livre qui s'appelle Dans la forêt, et en fait ça ressemble pas mal à Survivante, dans le sens où c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent aussi une fin du monde, et là les parents, enfin, sont vraiment tués devant elles, et elles vont se réfugier dans une maison dans la forêt, et elles racontent en fait leur quotidien en fait. Et là, moi ça m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit justement ça décadre avec moi l'idée que j'ai des récits de fin du monde où c'est souvent des trucs avec vraiment des héros ou des héroïnes hyper badass comme ça, qui vont un peu sillonner les routes avec des bazookas, ou bien enfin un truc vraiment vraiment plus cinématographique puis intense. Mais je me suis dit oui, en fait une fin du monde, ça peut être aussi quelque chose de plus calme et plus intérieur en fait.
Donc à la base vous voulez partir sur cette idée de vraiment le gros truc un peu western comme vous dites?
C'est des récits qui me plaisent beaucoup en fait. J'aime beaucoup regarder aussi ce genre de films ou de livres, mais c'est juste que je trouvais en fait que pour ce que j'avais envie de raconter, c'était pas le bon genre en fait. Mais dans le futur, c'est quelque chose que je pense que j'aurais du plaisir à écrire.
D'accord, ok. Passons aussi aux questions que vous aviez préparées, messieurs.
Oui.
Ah, c'est nous, ça?
Ah, c'est nous.
Alors, moi, je vais poser quelques questions sur l'édition. C'est pas toujours très intéressant comme question, mais bon, plus d'informations, ça aide toujours. Comment s'est déroulé le choix pour votre édition? Est-ce que vous avez choisi une édition vous-même, ou est-ce que c'est eux qui sont venus après avoir lu votre livre?
Pour ce livre Survivante, en fait, c'était un peu particulier dans le sens où, en fait, c'est un livre qu'on m'a commandé. C'est une association qui s'appelle l'Association d'aide à la création littéraire, qui est une association qui chaque année, en fait, demande à un ou une auteure du canton de Neuchâtel d'écrire un livre sur un endroit neuchâtelois, en fait. Et puis, ils ont un partenariat avec les éditions d'autre part, donc les livres sont toujours publiés aux éditions d'autre part. Donc, en fait, c'était assez particulier et génial dans mon parcours d'auteur, parce que c'est-à-dire que Bah, avant même d'avoir écrit une seule ligne, je savais que j'allais être publiée, et puis je savais que ce serait aux éditions D'Autre Part, que j'aime beaucoup. C'est là que j'ai aussi publié mon premier livre, en fait.
Et vous avez dit que ce serait sur un endroit neuchâtelois, et vous avez choisi la Chaux-de-Fonds, un endroit où vous avez grandi, non ?
Oui, c'est ça. Bah, j'ai choisi là vraiment un peu plus précisément Maison Monsieur, mais qui est vraiment à côté de la Chaux-de-Fonds, en fait. Et c'était même un peu le point de départ de l'idée du livre, en fait. C'est que je savais que j'avais envie d'écrire sur ce lieu.
Et est-ce qu'ils ont eu une plus grande influence que l'idée générale de quelque chose qui se passe à la Chaux-de-Fonds, ou est-ce que l'édition a plus poussé peut-être l'idée post-apocalyptique, ou...
Alors, ils m'ont vraiment laissé hyper libre, en fait. J'avais juste écrit un petit résumé de ce que je pensais faire, mais même, en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est au final. Enfin, au début, j'avais plutôt l'idée d'écrire... c'était l'histoire d'une jeune femme qui revenait sur les lieux de son enfance, en fait. C'était ça que je leur avais soumis comme idée. Et puis, au final, c'est pas du tout ça. Par contre, là, après, où l'édition a eu quand même... une grande influence sur le texte, c'est une fois que le texte était écrit, je leur ai envoyé, et puis là on a eu 3-4 mois d'échange par mail, en fait, où on a retravaillé le texte dans sa forme, dans ses détails.
Ils ont enlevé peut-être quelques parties, ou...
Là, ça a vraiment été un dialogue, en fait. Ils m'ont suggéré, par exemple, c'est vrai qu'il y avait peut-être... trop de matière, il y avait aussi beaucoup plus de listes, par exemple, dans le livre, donc ça, j'en ai enlevé quelques-unes. Après, sur la forme aussi, c'était des phrases, au départ, vraiment très très courtes, ultra courtes, et puis mon éditrice m'a dit que, vu que le format était déjà court, le journal avec des... que ça donnait un rythme un peu trop saccadé, et puis que ce serait plus intéressant d'avoir des phrases un peu plus longues pour donner une certaine dynamique, en fait.
Donc, il voulait un peu rallonger le livre, quand même.
Ça n'a pas tant rallongé que ça, parce qu'en fait, des fois, c'était plutôt juste mettre des virgules plutôt que des points, en fait.
Et pour la couverture, d'ailleurs, vous avez dit que c'était à la Chaux-de-Fonds, il y a une référence au lac du Doubs. Est-ce que c'est une photo que vous avez choisie? Est-ce que vous l'avez pris vous-même?
Ça, c'était aussi particulier avec ce projet, cette commande, parce que l'association propose aux auteurs de choisir un ou une artiste pour l'image de couverture. Et puis moi, j'ai un ami photographe, puis j'ai tout de suite pensé, en fait, que ce serait chouette de travailler avec lui. Et puis lui est venu donc à Maison Monsieur, parce que moi, j'ai été en résidence dans cette maison pendant 3 semaines. Et lui, il est venu, et puis il a pris un peu des photos du cadre, du lieu. Puis après, on a choisi ensemble laquelle serait la plus adaptée pour la couverture.
Est-ce que l'Ajar était un peu impliqué? Vous avez dit que vous connaissiez déjà ce photographe. Est-ce que lui, il connaissait des gens de l'Ajar, et puis après, avec des connexions, vous avez réussi à avoir une belle photo?
L'Ajar a aussi été un peu présente autour du livre, mais plus pour des relectures, en fait. Avant de soumettre le livre à mon éditrice, j'ai demandé à 2-3 personnes qui font aussi partie du collectif Ajar s'ils étaient d'accord de relire et de me faire des retours. Et puis on fonctionne beaucoup comme ça, en fait, sur nos livres.
Okay. D'ailleurs, je me demandais comment vous êtes venu à venir participer au concours Le Roman des Romans. On vous a appelé, ou c'est vous qui avez participé de vous-même?
En fait, la sélection se fait par un jury composé, je crois, de 6 ou 7 personnes qui sont des personnalités du journalisme ou autour un peu de l'écriture. Et eux, ils reçoivent dans l'année toutes les parutions suisse romande, en fait. Et ils font des lectures, et ensuite ils votent pour 6 ouvrages qui seront sélectionnés pour le prix. Et du coup, en fait, c'est dans ce cadre-là que Survivante a été sélectionnée. Donc, en fait, pour moi, ça a été un peu une surprise. Puis c'était vraiment une excellente nouvelle, en fait.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pourrez donner à nos auditeurs comme argument pour voter pour vous à ce concours?
Je sais pas. Enfin, c'est déjà tellement incroyable d'être sélectionné dans ce cadre-là, de pouvoir rencontrer des classes. Je pense si ça vous a plu, moi ça me touche aussi beaucoup, parce que enfin, c'est aussi un peu le seul moment où j'ai l'occasion aussi de rencontrer des gens qui ont lu le livre et puis qui me font des retours. Parce que, ben, je sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre, en général, j'écris jamais après à l'auteur pour lui dire si j'ai aimé ou pas aimé et puis pourquoi j'ai aimé ou pas aimé, en fait. Donc, à part ma famille et mes amis, ben, j'ai très peu, en fait, de retours sur le livre. Donc, ça, c'est déjà aussi vraiment trop bien. Et puis, pourquoi voter pour Survivante? Si vous avez envie de me donner un coup de pouce financier pour la suite de mon écriture, c'est toujours bienvenu. Mais
En parlant de finances, d'ailleurs, une question un peu peut-être sensible, et la dernière aussi, après on passera à un jingle et à de rafales de questions peut-être aussi sensibles. Quel est votre pourcentage de gain pour chaque livre vendu?
C'est le 10%.
10%? Ah, ok.
Ouais.
D'ailleurs, vous arrivez à vivre que de la littérature ou vous faites aussi autre chose?
Ben c'est vraiment ça, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que là, ben, les livres se vendent 21 francs. Donc, je gagne 2 francs par livre vendu. Et les livres ben, sont tirés à peu près à 500 exemplaires. Donc, pour un travail quand même de 6 mois à une année, je gagne à peu près 1000 francs, en fait. Donc, non, je peux pas vivre avec la vente des livres. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi ce travail à la crèche à côté. Mais après, c'est possible de vivre de la littérature, mais de manière un peu plus générale, c'est-à-dire en donnant des ateliers, ou bien en faisant un peu de journalisme, ou bien en ayant des commandes et des choses comme ça. Mais en Suisse, c'est vraiment très très rare les gens qui arrivent à vivre vraiment qu'en écrivant des livres.
Ok, maintenant très je bien. Vous souhaite bonne chance pour la rafale.
Merci.
Je laisserai la régie jouer le jingle.
Eh bien, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à notre prof de français. Merci à Monsieur Benjamin pour nous avoir prêté le matériel. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et je vais vous laisser quelques mots pour essayer de donner envie aux auditeurs d'acheter votre livre. Qu'est-ce que vous pourrez dire?
Ben merci de dire que si vous avez envie de vous plonger dans un endroit un peu très isolé, d'entendre parler de Moulin Rouge, de Naruto, quoi d'autre, de Vieux, Discman, et puis de Blaireau, que c'est un livre qui est fait pour vous. Voilà.
Merci beaucoup. Merci aux autres groupes aussi d'avoir contribué à l'émission. Je rappelle qu'il y a une séance de dédicace à Payot, à Chaux-de-Fonds, samedi 18 janvier de 15h30 à 17h. C'est maintenu même avec le Covid?
Je pense pas.
Ah. Bon, on verra bien. Sinon, voilà. Et merci à beaucoup à tout le monde d'avoir écouté l'émission et à bientôt.